RCF.
C'est à une figure de l'Église de France que nous allons nous intéresser dans cette émission Une fois pour tous, Madeleine Delbrel, 1904-1964. Et nous allons évoquer cette figure avec le père Gilles François. Il est prêtre du diocèse de Créteil et il est le postulateur de la cause en béatification de Madeleine Delbrel. Je voulais vous demander, pour commencer, de nous raconter peut-être en quelques mots, la vie de Madeleine Delbrel, père Gilles François.
Madeleine Delbrel, donc, en effet, est née en 1904 d'une famille, son père était cheminot et sa mère était d'une famille de petits industriels qui fabriquaient des chandelles et des cierges comme on le faisait à l'époque. Hein? Et elle est fille unique, voilà, donc elle vit, bon, son père fait une belle carrière dans les chemins de fer. Hein, mais ça veut dire qu'ils vont aller de ville en ville, tout en étant originaire du sud-ouest, exactement de Mussidan, près de Périgueux. Hein. Et au moment de la guerre de 14, le papa est chef de la gare de Montluçon, qui est quand même une ville importante dans l'Allier, c'est un centre industriel, hein, Montluçon, Commenterie, La Machine. Et là, il s'épuise. La guerre l'éprouve, il y a beaucoup de travail, les réfugiés, les soldats en transit. Bon, pendant tout ce temps-là, pour Madeleine, il y a un événement important. Elle fait sa première communion, hein, dans une petite église paroissiale, l'église Saint-Pierre de Montluçon. Et un an après, le père épuisé est en fait muté à un poste honorifique à Paris, près de la place d'Enfer-Rochereau, hein, à Paris, pour ceux qui connaissent. Et là, Madeleine connaît, donc on est en 1916, là, elle connaît la fin de la guerre de 14 avec les bombardements de Paris. Et puis, elle connaît aussi son père a du temps, n'est-ce pas? Alors il l'emmène dans un cercle littéraire qui est plutôt un cercle humaniste qui s'appelle le cercle Montaigne. Alors avec ses contacts qu'elle a, ce changement de vie, elle devient athée, comme elle dit. Elle, à l'âge de 17 ans, elle écrira un manifeste, Dieu est mort, vive la mort. Voilà, en fait, elle est quand même athée pendant 4-5 ans, dira-t-elle. Et c'est vers l'âge de 19 ans que, rencontrant des jeunes chrétiens, surtout un jeune de son âge, qui s'appelle Jean, qu'elle redécouvre, d'abord, elle se repose la question de Dieu, ou plutôt Dieu redevient une question qu'on peut se poser. Et aussi, un amour devient possible. C'est ainsi que, au bout de plusieurs mois de contact, les parents de Madeleine organisent un bal des 18 ans, voilà, quelques mois avant ses 19 ans, quelques jours, plutôt même avant ses 19 ans, et on les croit officieusement fiancés, voilà, entre ce jeune qui est profondément chrétien et Madeleine qui est radicalement athée, voilà. Et en fait, ce jeune est repris par sa vocation première il va rentrer chez les Dominicains, quelques semaines après ce fameux bal, et il laisse Madeleine, elle dira plus tard, il m'a laissé devant Dieu, quoi, hein. Enfin, Dieu va pas se manifester tout de suite, ou elle ne va pas réagir tout de suite. Pour l'instant, c'est une très grosse déception, c'est même de l'amertume. Et 6 mois, cependant, après cette rencontre avec ce jeune, elle se convertit en début mars 1924, vous voyez, donc elle a 19 ans. Et cette conversion va l'amener à plusieurs choses. D'une part, peut-être elle va devoir assumer propre père qui, sur ses entrefaits, est tombé gravement malade. D'autre part, elle va reprendre l'écriture des poèmes, pas tout de suite, parce que d'abord elle est fragile, elle est emmenée dans une maison de repos, est-ce un temps de dépression, je ne sais pas exactement, mais elle reprend pied dans la poésie qu'elle n'avait pas quittée du temps du cercle Montaigne. Donc on a ses poèmes avant et après sa conversion. Elle a un prix littéraire à ce moment-là pour son poème, pour son recueil de poèmes qu'elle publie. Donc elle pense même faire une carrière littéraire. Vous voyez, la conversion la bouleverse, la dynamise. En même temps, elle doit assumer ses fragilités, les fragilités de sa famille aussi, son père en particulier. Alors ensuite, il y a d'autres événements. Elle renoue avec l'Église. Elle retourne à la messe. Voilà. Elle va devenir une familière de l'Eucharistie quotidienne. Puis elle est embauchée par un des vicaires de la paroisse dans le scoutisme. Voyez, elle est cheftaine de louveteaux. En 1928, elle va continuer dans le scoutisme, mais elle va arrêter d'écrire ses poèmes, alors qu'elle a devant elle deux très beaux recueils de poèmes, et elle arrête, on ne sait pas exactement pourquoi. Elle s'éloigne de cette idée d'une carrière littéraire. Peut-être que c'est parce qu'au fond, sa prière lui fait dire, c'est dans un de ses poèmes, « Ô beauté, donne-moi ta charité ». Voilà, il y a un changement d'état d'esprit à ce moment-là. Elle passe de la recherche de la beauté à celle de la charité. Voilà, donc le scoutisme, et puis après, elle commence aussi dans le... commence à apprendre le métier d'assistante sociale. En 1930 seulement, il s'y met. Vous voyez, donc il s'est passé 6 ans depuis sa conversion. Alors, elle est probablement déjà accompagnée par l'abbé Lorenzo, qui est l'aumônier aumônier. Elle a commencé une direction spirituelle, 1930, donc ce début de formation au métier d'assistante sociale. Et puis, avec d'autres cheftaines, elles se sont regroupées, elles ont formé un groupe pour se former au plan spirituel, pour aller auprès des plus pauvres aussi. Voilà, donc on sent qu'il y a quelque chose qui se développe. Et plusieurs d'entre elles ont un désir de se consacrer totalement à Jésus. Et en fait, l'abbé Lorenzo serait plutôt, lui, enclin à les orienter vers la vie religieuse, comme on faisait, c'était le cas de toutes les jeunes filles à l'époque. Et en fait, à la fois, on lui recommande, enfin, les autorités ecclésiastiques lui disent, bah, peut-être qu'il faut qu'elle reste laïque. Et Madeleine est assez porteuse de cela, en tout cas de se consacrer à Dieu dans le monde, ou de servir Dieu dans le monde, disait-elle à l'époque. Elles vont partir, effectivement, 3 laïques, Hélène, Suzanne et Madeleine, elles vont partir à Ivry-sur-Seine en 1933. Donc il s'est pratiquement écoulé 9 ans et demi même depuis sa conversion, vous voyez. Elle va partir appelée par le curé pour animer un centre social paroissial. Voilà. Au début, c'est le point de départ, ça. Puis cette conviction qu'il faut être là pour tous. Mais à Ivry, la paroisse est dans un milieu chrétien très minoritaire, c'est une ville très communiste, c'est une des villes les plus communistes de France, hein. Et elle va voir qu'il y a une adversité aussi, que ce sont aussi des gens qui sont très très dévoués, hein, qui ont un sens de l'engagement, qui ont un sens des pauvres aussi. Alors pendant un temps, elle est un peu fascinée par eux, mais si ensuite elle va travailler avec des communistes, elle refusera tout engagement plus idéologique, quoi, avec eux, puisque pour elle, les communistes considèrent que pour que l'homme soit libre, il faut le libérer de Dieu, pour que l'homme soit heureux, il faut le libérer de Dieu, et puis les communistes considèrent que il faut écraser les ennemis de classe, les patrons, il faut lutter contre eux, et ça, elle peut pas accepter ça. Donc elle est sur Ivry. Et à ce moment-là, elle commence à prendre la mesure d'une autre dimension de la foi. En particulier, elle comprend qu'elle n'est pas là seulement pour les chrétiens, mais qu'elle est là pour tous. Hein. Ce qui fait qu'elle sous la houlette du curé, avec l'accord du curé, voilà, elle va louer une maison en ville où ils sont toujours là. Hein. Si vos auditeurs vont à Paris, 11 rue Raspail, ils peuvent trouver l'adresse sur le site des amis de Madeleine Delbrel. Hein, la maison est visitable, elle est très intéressante. On l'a restaurée récemment, mais ils sont arrivés donc en 1935, vous voyez, avec cette idée que quand on est catholique, on n'est pas catholique que pour les catholiques, on est catholique pour tous. Voilà. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est un très profond renouveau de la mission, hein, des laïcs missionnaires, des femmes qui vivent aussi une forme de consécration puisqu'elles sont dans le célibat, hein, mais aussi qui ont une vive conscience d'être là pour tous, pour toute la population. Et puis la guerre arrive, non sans qu'elles aient écrit le très célèbre « Nous autres gens des rues » qu'elle écrit en 1938. Ensuite, bon, la guerre arrive, il va se passer un très important brassage de population parce que Madeleine et ses compagnes, qui sont 8 à ce moment-là, ont choisi de rester pour être avec la population. À vrai dire, elles sont même réquisitionnées par la préfecture. Donc elles sortent du giron simplement paroissial. Hein, et Madeleine va être assistante sociale, payée par la préfecture, sur Ivry, hein, pour, on va dire, pour coordonner, pour mettre en lien tous les services et les œuvres sociales qu'on trouvait sur Ivry. Voilà, une espèce de d'union de tous les, de tout ce qui, de tout travail, tout travaux social. Toute la guerre, et puis à la fin de la guerre, quand les communistes reviennent, en fait, ils apprécient leur travail, ils veulent la garder, ce qu'elle fera pendant un an. Voilà, un an dans le cadre juste de la libération. Vous voyez, Paris est libéré le 25 août 44, et Madeleine, jusqu'au 1er octobre 45, va être dans ce giron-là, enfin, dans cette union sacrée, on pourrait dire, voilà. Ensuite, elle démissionne, elle continuera parce que la maison est très vivante. Beaucoup de gens de Ivry, et d'ailleurs, viennent à la maison. Et elle a commencé à écrire, elle écrit davantage des textes dont vos auditeurs connaissent peut-être, hein, mais que je vous invite à lire, en particulier dans un recueil qui s'appelle « La sainteté des gens ordinaires ». Aux éditions Nouvelle Cité, La sainteté des gens ordinaires, et puis un autre recueil qui s'appelle Humour dans l'amour. Et elle va commencer son charisme d'écriture, hein, qu'elle avait depuis sa jeunesse, va servir à exprimer la foi chrétienne d'une façon renouvelée. Et plus que cela, il y a chez elle une dimension mystique, hein, une union à Dieu qui lui donne beaucoup d'audace, beaucoup de liberté. Et elle, au fond, elle est capable de mettre par écrit des choses très profondes. Enfin, est-ce que c'est les profondeurs, scruter les profondeurs de Dieu? Peut-être, quand on est uni à Dieu comme elle l'était, hein, il y a des profondeurs divines, je trouve, qui viennent à travers des mots simples, à travers une expression prise dans le réel, quoi. Il n'y a jamais d'idéalisme chez elle, c'est un trait de sa spiritualité d'ailleurs aussi. Hein. Elle cherche tout le temps le réel, et que l'évangile et nous met dans le réel, et qu'il n'y a pas plus réel que Dieu lui-même. Quoi. Voilà, je vous ai résumé. Après, si on peut dire après la guerre, quand même tire des choses importantes. Il y a beaucoup de jeunes prêtres qui désirent être prêtres ouvriers. Donc c'est pas simple, il y a une crise des prêtres ouvriers en 1953-54. Elle est très à l'écoute, elle en connaît bon nombre, elle voit les dangers aussi, le manque de préparation de ces prêtres, mais pas seulement de l'Église, hein, et elle voit beaucoup de difficultés, elle comprend aussi le point de vue de Rome et les inquiétudes du Vatican. Ça la fait beaucoup souffrir, quoi. C'est une souffrance de l'Église de voir à la fois ces jeunes forces vives et en même temps les manques de prudence, les manques de jugement, le manque de formation qu'il aurait fallu à ce moment-là. Mais ça va la plonger plus profondément, hein, dans la vie de l'Église. Certaines disent « Ah, Madeleine, c'est Madeleine de l'Église hein, ». Bien que son groupe soit tout petit, de son vivant, il y a un rayonnement qui est pas très grand, mais qui est bien au-delà de son petit groupe. Elle connaît des prêtres comme le père Jacques Leuve, qui était docker à Marseille, qui était bien connu pour ses écrits. Peut-être certains de vos auditeurs connaissent encore le père Jacques Leuve, hein, et d'autres moins connus, comme le père Louis Augros, hein, ou même un jésuite célèbre, je ne retrouve plus son nom, je cite tout cela de mémoire, hein, le père Gaston Fessard, qui avait beaucoup d'admiration pour Madeleine, hein, ou encore le cardinal Journet, théologien suisse. Voilà. Alors c'est un rayonnement qui ira grandissant, bien que le groupe, je vous dis, va plafonner à 15 personnes, qu'il va subir une grande crise, parce que c'est bien gentil d'être laïque comme ça dans le monde, mais au nom de quelle mission? Elle est toujours en lien avec l'archevêque de Paris, avec l'évêque de Nancy, quand elles avaient un groupe en Meurthe-et-Moselle. Mais voilà, c'était quand même une situation pas très facile qui avait amené une crise interne au groupe, qui ne se solutionnera que quelques années avant sa mort. Elle va mourir prématurément en 1964, avec le sentiment un peu étonnant, oui, qu'elle a accompli ce qu'elle avait à faire, bien qu'elle meure quelques semaines avant ses 60 ans. Voilà, je vous ai résumé sa vie.
Il y a des gens à qui ne manque rien de nécessaire. Il y a des gens agis par Dieu pour qui l'action est une prière. Il y a des gens pour qui parler à Dieu et faire silence. Il y a des gens pour qui Dieu, la solitude est une naissance. Nous autres chantons des rues à fond, une maison ordinaire. Nous autres chantons des rues vivons, la sainteté des gens ordinaires. Il y a des chants enfoncés loin.
Gilles François, vous nous avez donc résumé la vie de Madeleine Delbrel à grands traits. J'aimerais qu'on revienne sur quelques aspects de sa spiritualité. Peut-être le premier aspect que je voudrais que vous nous en parliez, c'est son rapport à la parole de Dieu. Parce que ça, c'est quelque chose de très important pour Madeleine. Puis aussi un rapport assez concret, on peut dire.
Oui, alors elle avait eu la chance que le vicaire de sa paroisse, qui était déjà l'abbé Lorenzo, soit un prêtre qui savait mettre directement les jeunes en contact avec la parole du Seigneur. Voilà, il les enseignait, mais c'était un homme assez discret et qui avait un don de s'effacer devant le Seigneur. Voilà, donc il leur donnait vraiment des textes de la parole. Et quand leur groupe a démarré en 1930, le groupe se réunissait tous les 15 jours. Eh bien, il faisait un chapitre des Actes des Apôtres tous les 15 jours. Avec les vacances, vous comptez, il y a 28 chapitres. En gros, ça a duré un an et demi, quoi. Hein? Alors ça, c'est une première chose extrêmement forte. Hein? Ce prêtre qui les enseigne de cette façon-là, contact direct avec la parole du Seigneur, c'est extrêmement pionnier à l'époque. Hein? Et très étonnant de la part de ce prêtre à l'allure effacée, hein, et pourtant tellement présent, qui a été un éveilleur de vocation fantastique. Alors après, la deuxième chose, c'est dans le fameux « Nous autres gens des rues » de 1938, une phrase saisissante, « Dans la rue, pressés dans la foule, nous établissons nos âmes comme autant de creux de silence où la parole de Dieu peut se reposer et retentir. » Voilà. On peut évidemment lire la parole de Dieu tranquillement chez soi, mais aussi elle a le sens que « Dans la rue, pressés dans la foule, nous établissons nos âmes. » Comme autant de creux de silence, donc il y a un creux qui peut se faire, même quand on est pressé dans la foule, un creux de silence où la parole de Dieu peut se reposer et retentir. Vous voyez ce sens aigu que la parole trouve un peu de place dans notre âme et elle se pose, elle se repose et elle retentit. Voilà. Une deuxième phrase qui marque sa spiritualité de la parole de Dieu, c'est En 1943, 5 ans plus tard, elle explique l'essentiel d'un missionnaire, et c'est un grand texte qui s'appelle « Missionnaire sans bateau ». Et à un moment donné, elle dit bah, « le missionnaire est témoin de la parole de Dieu ». Mais pour être témoin, elle commence par dire que la parole de Dieu, on la laisse aller jusqu'au fond de soi, jusqu'à ce gond où pivote tout nous-mêmes. Alors c'est cela qui va nous rendre aptes à être missionnaires. C'est-à-dire que c'est un actif passif. Je laisse aller jusqu'au fond de moi la parole de Dieu. Elle va aller jusqu'au fond de moi. Alors qu'est-ce que c'est que ce gond où pivote tout nous-mêmes? C'est peut-être le lieu de ma conversion. Hein, voyez? Et alors après, elle précise, c'est cet accueil de la parole de Dieu qui nous rend aptes à être missionnaires. Donc elle fait un lien très fort, voyez, entre moi-même ma propre conversion et le fait que je vais être missionnaire. Et donc ici aussi, entre la vie spirituelle, parce qu'elle est contenue là finalement, et la mission. C'est très unifié chez elle. Hein. Et elle dira plus tard être à la fois évangélisé et évangélisant. C'est-à-dire de vivre cela comme un mouvement. Alors ça rejoint beaucoup de choses qui se déploient actuellement dans l'Église, hein, comme beaucoup de diocèses où on met en avant les disciples missionnaires. Hein. Eh bien c'est exactement cela, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être missionnaire simplement, il faut d'abord être disciple du Christ.
Est-ce qu'on sait justement la manière dont concrètement Madeleine Delbrel fréquentait cette parole de Dieu?
Oui, c'est très concret. Alors personnellement, elle avait des moments où elle était vraiment fatiguée et elle avait un recours très simple. Elle crayonnait surtout des Nouveaux Testaments. Hein, on n'a pas l'équivalent dans l'Ancien Testament qu'elle lisait aussi, mais ça la soutenait quoi. Elle soulignait des phrases entières. On en a 3 exemplaires comme ça, presque entièrement soulignés par Madeleine. Ça c'est une chose à titre personnel. Hein. Et ensuite dans leur groupe, elles avaient ce qu'elles appelaient un cercle d'évangile hebdomadaire, qui était préparé par l'une d'entre elles, soit avec un texte de la liturgie, du temps liturgique, soit un texte qu'il avait marqué et qu'elle prenait pour les autres. Voilà, elle faisait cercle au sens qu'on est en cercle, en recours au Seigneur, on fait cercle autour de sa parole, autour du Seigneur. Voilà, toutes les semaines, avec toujours dans cette soirée, un temps de conséquences pratiques.
Qu'est-ce que ça veut dire?
De conséquences pratiques, bah par exemple, vous savez, c'était la crise du logement à Paris. Hein. On est dans les années 50, il y avait plein de gens, même des gens qui avaient une paye régulière. Un ouvrier qui avait une paye régulière, c'est pas sûr qu'il ait un logement. Hein. Il était peut-être en bidonville. Alors une vieille dame voisine avait dit, bah moi maintenant je suis toute seule, j'ai un grand appartement, je pourrais loger une famille, mais je sais pas où loger. Eh bien, elles ont décidé à la fin d'un cercle d'évangile de consacrer une partie de leur maison à cette vieille dame, qui restait jusqu'à la fin de sa vie au 11 rue Raspail. Vous voyez, c'est pratique.
On peut dire aussi que, si on rappelle le contexte, on est avant le Concile Vatican II, et que la fréquentation de l'Évangile n'était pas forcément chose si commune pour les chrétiens, oui. Pour les catholiques au moins.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment là un travail pionnier, celui de l'abbé Lorenzo, et puis de ce groupe de femmes, et Madeleine en tête, quoi. Hein, puisque c'est pas du tout l'usage. À l'époque, les prêtres instruisaient les enfants et les chrétiens avec l'histoire sainte, hein, où on faisait des sermons. Hein. Alors il y avait un recours à la parole de Dieu. Toute la liturgie est complètement façonnée par la parole de Dieu. Mais là, c'est cette mise en contact directe que développera ensuite le Concile Vatican II. Donc elle a, à ce sens, fait partie de ceux et celles qui ont préparé le Concile.
Vous l'évoquiez aussi en parlant des disciples missionnaires, cher au pape François. Eh bien, cette figure de Madeleine Delbrel, sa spiritualité, invite encore aujourd'hui, finalement, à remettre l'Évangile au centre de la vie des chrétiens, de le fréquenter, de le lire, seul, avec d'autres. On n'a jamais fini de revenir à la source, d'une certaine manière.
Oui. Alors, c'est vrai. Et en même temps, je vois que, je l'ai dit au début, hein, qu'elle est une familière de l'Eucharistie, Mais peut-être qu'on est avant le concile. Le concile va avoir le génie de revaloriser toute la liturgie de la parole qui existe bien sûr dans la messe du concile de Trente. Mais là, on a les trois années, les A, B et C pour les dimanches, et puis les années paires et impaires en semaine. Donc il y a un lectionnaire beaucoup plus développé. Alors du coup, elle, on a l'impression parfois qu'il y a la parole de Dieu, qui c'est nouveau pour elle, et puis par ailleurs, elle a sa pratique quotidienne de la messe. Alors l'unité, à mon sens, se trouve chez elle par la personne du Christ, quoi. C'est-à-dire c'est la parole. Du Seigneur, vous comprenez bien, après la proclamation de l'Évangile, acclamons la parole de Dieu et on répond « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Elle a ce sens aigu que c'est Jésus qui parle. Alors donc, on va de la parole au corps du Christ. Et à cette conscience de l'unité organique de l'Église, l'Église corps du Christ, comme dit saint Paul, l'Église corps mystique, Mystici Corporis Christi, c'est l'encyclique de Pie XII en 1943. On est dans ce temps aussi où se rejoint à nouveau la parole et le corps. Enfin, je dis ça peut-être de façon un peu caricaturale, mais elle a un sens aigu très sacramentel, quoi, qui se fait jour et qui nous aide beaucoup maintenant. Je souligne ça parce que quand elle a été mise en valeur au début, après le concile, c'est surtout la nouveauté qui avait saisi. Donc c'est son rapport à sa place de la parole de Dieu qui est de fait vraiment une originalité, mais il ne faut pas oublier sa très grande, sa très profonde pratique de l'Eucharistie.